Vous saviez que choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de choc.ca.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 36, le chapitre 397 de Mission Encre Noire qui commence. D'aussi loin qu'il se rappelle, il avait souhaité la fin du monde. Le premier souvenir remontait à ses 4 ans. Un village construit avec du sable, de la terre, des cailloux et de l'eau. Sous le seul arbre de la cour, un érable argenté. Une communauté de petites maisons en carton ou en écorce, de routes tracées avec ses mains, de voitures miniatures Hot Wheels et Matchbox, de figurines humaines et d'animaux en plastique. Une feuille d'arbre dressée en voile de bateau. Une abeille morte comme professeur, une araignée écrasée comme amie. Les hélicoptères, en réalité des samars tombés de l'arbre, devenaient des canons d'artillerie. Un criquet séché devenait un fantôme dans une maison hantée. Aucune échelle n'avait été respectée. Un soldat était plus grand qu'une maison. Des silhouettes récupérées ici et là, sans lien apparent. Toutes avaient un nom et une histoire à raconter, si on les lui demandait. La statuette du chien, sa préférée, venait du jeu Monopoly. Un matin d'octobre, l'enfant sentait les jours raccourcir et refroidir, où les feuilles avaient tardé à tomber. Il avait étiré le boyau d'arrosage et pulvérisé la petite ville et ses habitants en quelques secondes. Puis, il avait donné 3 coups de pied nonchalants sur ce qui était resté trop ordonné à son goût. Il avait passé plusieurs jours, depuis le début de l'automne, à construire une ville et un monde imaginaire et à les couvrir d'une bâche les jours de pluie. La mère s'était attendrie de voir son fils ainsi affairé et concentré. Il s'amuse avec rien, cet enfant-là. Elle répétait à tous ceux qui croisaient le garçon, heureuse et fière, comme une mère normale. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait d'Un homme et ses chiens par Marc Séguin, paru en 2022 aux éditions Le Méac. Dans sa vie, cet homme a eu des chiens. Moujo, son premier, il avait 7 ans, est devenu son confident. Très tôt, dès ses 4 ans, il avait souhaité la fin du monde. Il avait surtout aimé le feeling de détruire ses modèles complexes et de pouvoir les reconstruire. Plus tard, il a fui le monde et ses conventions à travers les drogues puis les livres. Il a connu l'amour à plusieurs reprises, malgré sa sauvagerie. Sans cynisme, malgré tout, il ne se sent pas capable de partager son quotidien bien longtemps. Il cherche autre chose de plus grand que soi qui pourrait taire sa colère intérieure. Il restera à Anticosti plusieurs années, puis sur l'île au naufrage. Il deviendra guide de chasse avec ses chiens pour accompagner de riches Américains, des Français ou des Anglais. Marc Séguin nous présente le portrait tout en nuances d'un homme qui s'inscrit en rupture de la société, qui aimerait ajouter un chapitre de bonheur véritable à l'histoire de sa vie, même s'il juge le quotidien définitivement trop triste. Pourtant, si l'humanité court à sa perte, à quoi cela sert de vouloir encore aimer, pour de vrai, en grand, jusqu'à la douleur peut-être ? Si par un ciel clair il est encore possible de voir des étoiles filantes aujourd'hui, parfois elles nous attirent comme à un mauvais rêve, loin du vide, pour nous signifier que nous ne sommes pas seuls au monde. J'accueille ce soir à Mission Encre Noire, Marc Séguin. Bonsoir Marc.
Bonsoir Eric. Merci, bravo, c'est beau.
Ah bah bienvenue, bienvenue. Vous êtes artiste peintre réputé. Vous avez réalisé un film Stealing Alice en 2016 et un documentaire La ferme et son état en 2017. Vous avez publié des romans remarqués La foi du braconnier en 2009, Hollywood en 2012, Nora Alice en 2015, Les repentirs en 2017 et Jenny Sorrow en 2020. Votre travail d'auteur vous a valu d'être finaliste à de nombreux prix et de remporter le prix littéraire des collégiens. Alors, l'œuvre en couverture du livre s'intitule Homme-chien. C'est une eau forte, pointe sèche et acrylique qui rappelle que la vie, la nature, l'animalité sont au cœur de votre travail artistique. Sur cette couverture, le chien porte comme la silhouette d'un homme tatoué au rouge près du cœur. Alors, que représente cette marque et qu'est-ce que cela symbolise pour vous ?
Ça résume un peu cette idée sauvage, cette idée d'animalité qui parfois nous résume. Hein, j'insiste, je suis pas un apôtre de cette philosophie, mais parfois je trouve qu'on s'en est trop éloigné. Donc l'image vient témoigner un peu, illustrer d'une manière quand même assez libre, l'idée que le chien tient à son cœur, en son cœur un homme, et que l'homme fait partie du cœur du chien aussi. Pour inverser un peu, parce que dans l'histoire, vous savez, c'est les chiens qui font le lien entre la loyauté que l'homme désire et souhaite, et celle qu'il trouve, c'est à travers ses animaux.
Mmh. Alors, l'enfant va grandir avec ses chiens, et l'homme, plus tard, puisqu'en fait, vous ne nommez pas votre personnage, il s'appelle l'homme, tout simplement. En tout cas, cet homme avoue plus tard, dès les premières lignes du roman, plutôt faire confiance à ses chiens, leur confier ses sentiments, ses peurs, plus qu'à n'importe qui d'autre, et en particulier, certainement pas aux femmes qui vont traverser sa vie. Il rêve aussi à la fin du monde. C'est un personnage assez particulier. Que s'est-il passé dans sa vie pour établir ce rapport avec son entourage?
Peut-être qu'on peut retourner à l'arrière ou faire une psychanalyse de son enfance où il y a eu des morts. Mais je pense que c'est plutôt inscrit intrinsèquement dans sa génétique, dans son identité. C'est-à-dire, c'est un véritable plaisir la première fois qu'il pulvérise, parce qu'il se construit des mondes, des mondes avec des voitures, puis dans le sable alors qu'il est enfant. Puis il retrouve, il y trouve probablement davantage de plaisir à détruire le monde qu'il a construit plutôt qu'à le faire. Puis comme un peu comme les moines font avec les mandalas, tu sais, où une fois l'œuvre terminée, on la détruit puis on recommence. Peut-être plus dans le faire, plus dans le présent, parce que il y a aussi la métaphore de ne pas vivre au présent, qu'il l'habitait aussi une partie de son temps, toujours en fuite de lui, de quelque chose. Et moi, je croirais que tu vas pas tomber dans le portrait psychologique, mais que on peut naître ici ou le devenir, parce que c'est aussi une fable. Je crois qu'il parle, j'espère, du temps présent, puis de ce qu'on vit en ce moment. On se fait dire, on se fait crier à tue-tête, et on se fait répéter plutôt à tue-tête depuis des décennies qu'on s'est engagé dans une fin du monde imminente.
Alors, vous écrivez, l'homme se retrouvait toujours en mauvais temps. Pourquoi avoir choisi de nous décrire, de nous faire le portrait d'un personnage si radical, qui est attiré par ce côté de destruction, de mettre fin si tôt à ses relations avec ses proches?
Je trouve que ça, vous savez, un mariage, une union sur deux se termine en séparation. Donc, et j'ai l'impression qu'on n'enchante que cette histoire d'amour qui devrait être infinie et éternelle, alors qu'on parle très peu du fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'engager, qu'il y a seulement la partie du désir ou les premiers pas qui sont, vous savez, dans l'histoire récente, il y a un truc qui est inventé qui s'appelle la gratification immédiate. T'sais, j'ai l'impression que le sentiment amoureux n'y échappe pas non plus. C'est-à-dire qu'on veut vivre que l'euphorie d'amour, puis laisser tomber la partie où on doit faire des efforts. T'sais. Puis j'ai voulu faire incarner un personnage parce que c'est des préoccupations que j'ai dans ma vie d'homme personnel, de voir que on est des bébites, on est des animaux complexes. Puis la littérature se traitait bien dans ce cas-ci. Puis parfois aussi, comme je suis un peu né avec un trouble de l'opposition, je voulais montrer que le personnage complexe aussi peut servir à illustrer qui on est et l'époque dans laquelle on vit. Donc, puis vous savez, moi, là, un personnage poli et lissé, et pas mal moins intéressant en littérature qu'un personnage complexe avec des nœuds, parfois des fleurs, mais souvent des épines aussi.
C'est
donc, d'où ce besoin d'aller le faire incarner à cet humain qui, parce que je suis des échos depuis, ça fait quelques semaines que le livre est sorti, puis en général, les gens merci d'avoir créé quelqu'un avec des fautes. des erreurs de fabrication.
Alors, effectivement, c'est un personnage qui fuit. Et d'ailleurs, ce mot l'euphorie revient souvent dans votre livre. La route l'appelle très tôt. Il devient guide de chasse avec sa chienne Solo, un braque allemand. Il trace, il débusque, il récupère les bêtes tuées et il ressent effectivement une euphorie que vous écrivez millénaire au contact des corps encore chauds. Alors, vous écrivez également « tuer comme aimer », une euphorie qui se ressemble. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là autour de la chasse ou encore autour de l'acte de tuer?
Dans mes visées d'aller rejoindre qui on est et de nous nommer comme artiste, je pense que ça fait un peu partie de ma responsabilité. Ben, je crois qu'on a parfois une vue courte sur qui on est et qu'il y a des choses qui nous rattachent au passé. Nous, on ne s'est pas construit en 20 ans. Là. Malgré le fait qu'on tourne beaucoup autour de nos petites choses dans une époque très narcissique, mais je pense qu'il y a des choses qui sont inscrites en nous depuis des millénaires, dont celle où, à une certaine époque, tuer un animal pour se nourrir assurait sa survie et permettait de continuer puis éventuellement de se reproduire parce que c'est un peu la nature très très profonde de la vie sur Terre, c'est se perpétuer. Mm-hmm. Donc je pense qu'il y a quelque chose, vous savez, quand on va où la peur des serpents ou la peur des choses qui sont des moisissures ou du courrier, je crois qu'il y a des choses qui sont inscrites dans nos gènes, qui font en sorte que pour assurer notre survie, on les repousse, notre corps les repousse naturellement. Et l'amour, cette idée-là de se reproduire, je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire avec l'euphorie nommée dans le livre, qui fait en sorte que oui, c'est parfois un jeu, c'est parfois du désir, mais c'est aussi parfois essentiel. Et pour se reproduire, ça passe souvent par l'orgasme, entre autres. Ben, je me dis, mais qu'est-ce qui serait arrivé à notre belle race s'il n'y avait pas eu ce plaisir-là associé? Est-ce qu'on se serait... Est-ce qu'on aurait survécu des millénaires? Mm-hmm. Et par quel drôle de dessin la biologie a-t-elle eu besoin d'inventer du plaisir pour qu'on se reproduise? Ces choses-là, je crois, sont inscrites en nous profondément. Mm-hmm. Puis, en fait, je le vois... Je le vois dans cette. Je me suis posé la question, parce que je suis aussi chasseur d'envie, c'est pour me nourrir. Je me suis posé la question la première fois où j'ai abattu un animal et que j'y ai ressenti un trouble, parce que à la fois, c'est le trouble d'avoir abattu ou d'avoir enlevé la vie à un être vivant. Puis ça aussi, pour moi, est inscrit quelque part en nous profondément et ça fait vibrer. Là, il n'y a pas que lire ou réussir un jeu vidéo qui fait qu'on peut être heureux dans la vie. Mm-hmm. Il y a aussi ces choses-là qu'on a un peu tendance à oublier.
Alors, il y a très peu de descriptions de paysages dans vos pages. Je veux dire, il n'y a pas de grandiloquence. La nature est pourtant là, en creux, toujours très proche dans votre texte. Votre regard est plutôt pragmatique, à hauteur d'homme, à hauteur de chien, à hauteur de guide de chasse. Est-ce que l'homme et le paysage ne font qu'un pour vous, en tout cas dans ce projet de livre?
Oui, absolument, parce que j'ai côtoyé dans ma vie aussi beaucoup de guides de chasse. Ils ont toute mon admiration. En fait, tous les gens qui vivent leur territoire ont mon admiration parce qu'ils ont résolu une équation qui nous, urbains, avons encore la difficulté à gérer. C'est-à-dire que ils s'assoient rarement pour se dire « Ah, que le paysage est donc beau. » Ils le vivent, le paysage. Alors, ils ne sont pas dans un mode contemplatif, même si parfois, ils peuvent regarder un coucher de soleil et une fraction de seconde. Y trouver de la beauté ou y trouver quelque chose qui les rattache au monde ou au cosmos. Mais il y a quelque chose dans l'identité des gens qui vivent leur territoire qui m'impressionne. C'est-à-dire, ben, OK, c'est rude, comme ça, on fait avec. On avance, il y a une tourbière, il faut la marcher. On s'en sortira pas. Si on veut traverser, il y a un fleuve, il y a une mer, il y a un lac. Il y a quelque chose de magique dans ça. Puis j'ai aussi cette admiration-là pour les gens qui vivent sur le bitume, puis l'asphalte, puis les trottoirs. Il y a quelque chose de très, très intelligent dans une sensibilité où les gens se sont adaptés au lieu qui les porte. Puis je trouve que les guides de chasse, ben, ont cette connexion-là aussi, parfois avec une nature qu'on a tendance à romancer un peu, mais qui est aussi belle, puis qui nous rattache à des rythmes qui sont différents de la pression industrielle de toujours avancer, puis d'avoir une économie profitable, puis florissante, puis pour assurer l'avenir et l'éternité du monde. Ces gens-là comprennent aussi en voyant des cycles. Vous savez, je suis aussi fermier dans la vie. Et il y a quelque chose d'aussi très beau à se dire, bon, ben là, c'est la terre dégèle, il y a des choses qui vont pousser. Mais ça, je trouve que ces cycles-là, comprendre qu'on est aussi des cycles comme humains, même comme auteurs, d'accord, parce qu'il y a un début puis une fin de livre, ben moi, ça me rassure un peu sur la suite des choses. En fait, je suis très rassuré par le fait qu'on n'est pas éternel.
Alors, l'amour ou le sentiment amoureux est un sujet qui se retrouve en point de mire de la lecture. Votre personnage va connaître plusieurs relations dans son histoire et trois femmes principales qui vont un peu représenter certains cycles, comme vous en parliez tout de suite, Elisabeth, Clara et Marie. Étonnamment, il ne fuit pas les femmes, ils ne s'attachent pas, mais ils ne les fuient pas. Bon, c'est assez classique comme constat. Vous dites, pourtant, durant de longues années, l'amour avait porté les traits d'une agression. L'homme s'inquiète de devenir une proie. Pourquoi agression? Pourquoi une proie?
J'ai beaucoup réfléchi depuis quelques années. Est-ce que le modèle amoureux qu'on m'impose ou qu'on nous impose par extension est celui que je souhaite? Est-ce qu'il faut que l'amour soit éternel? Il faut que ça dure toujours, l'infini? Ça vient d'où, ça? Je pose sérieusement les questions. Est-ce qu'une relation amoureuse pourrait pas naître comme un sentiment d'amitié? Parfois, ça s'use, parfois, ça s'étiole, ça disparaît. Alors, pourquoi forcer, alors qu'on célèbre partout l'infini et l'immortalité d'un sentiment amoureux? Je trouve ça inquiétant qu'on ne se pose pas assez de questions sur ça. Puis j'ai le privilège de pouvoir faire parler des mots pour aborder le sujet. Puis à travers un homme qui, lui, justement, vit ces fins de cycle-là d'une manière, je ne veux pas dire aisée, mais qui finit par les accepter parce qu'il se pose des questions. Alors, c'est comme une agression parce que le modèle amoureux ou fusionnel ou celui qu'on lui a imposé ne lui correspond vraisemblablement pas. C'est comme pour plusieurs personnes que je connais dans mon entourage aussi. Donc, mais quel privilège, mais c'est aussi mon travail d'artiste, encore une fois, ça fait partie de mon état d'aller questionner et bouleverser des choses qu'on prend pour.
Est-ce que dans votre démarche, Elisabeth, Clara et Marie représentent justement différentes approches? Est-ce qu'elles représentent différents moments de cycle ou d'évolution de votre personnage?
Ben, oui, complètement. Tu sais, puis sans faire une grande révélation, je suis beaucoup plus caché dans ces personnages féminins-là que dans le personnage masculin ou que dans celui de l'homme. Donc, tu sais, puis à différentes époques aussi, je me souviens de la façon dont j'aimais. Et cette chose-là s'est aussi transformée avec le temps. Puis, donc, à travers les personnages féminins qui avancent dans le temps, qui font partie de la trame narrative, je viens finir aussi par nommer différents états de cet amour-là. Mmh.
J'ai envie de vous demander, que représente pour vous vivre la nature ou vivre dans la nature, comme pour votre personnage? Est-ce qu'il y a une recherche de connexion avec ce que vous nommez comme l'insaisissable, ce qui doit rester caché? Peut-être le mystère qui est, en tant qu'urbain ici, nous échappe encore, le mystère de la vie?
Oui, peut-être, en fait, ou encore à travers l'art, c'est une manière de tenter d'y accéder. Parce que il y a plusieurs offres, que ce soit d'artistes, de créateurs, de peintres, de danseurs, de poètes. Il y a plusieurs façons qui sont aussi, je vais dire malheureusement, mais trop urbaines parfois, où les médias le sont aussi, très urbains. En fait, il y a une fracture très claire entre les ruraux et les urbains, que je tente, moi, de réconcilier, non pas dans un essai didactique, mais plutôt dans ma vie aussi en général, parce que je suis aussi écartelé entre ces deux pôles où je vis dans le silence puis dans un monde sauvage et en même temps dans des métropoles culturelles. Tu sais. Et j'arrive pas à dire un est meilleur que l'autre ou à en améliorer un ou l'autre, mais que la coexistence devrait être un peu plus présente. Là.
Il va faire donc la rencontre de Marie, l'une de ces trois femmes. J'aimerais insister plus sur Marie, qui est en fait une des filles d'Henri, un homme qu'il va rencontrer, un vieux guide de chasse avec qui il va partager certaines sorties. Vous écrivez « Le temps était enfin venu pour un conte heureux ». Alors, sans rien révéler du point tournant du roman, qu'est-ce qui change dans la vie de cet homme qui a toujours fui, qui a toujours renoncé à certains renoncements pour prendre conscience que le bonheur des autres peut aussi faire aussi le sien? En gros, qu'est-ce qui lui révèle, qu'est-ce qui le révèle à cet amour avec un grand A?
Depuis l'enfance, depuis l'adolescence plutôt, il a rêvé. Parce qu'il voulait savoir, un, si ça existait, puis si ses relations précédentes n'avaient pas comblé les attentes société ou que des gens avaient implanté ou créé pour lui. Et finalement, il rencontre cet amour, je ne parle pas de la personne, je parle de l'amour du sentiment, à travers Marie, où il devient éperdument amoureux pour une fois. Peut-être que c'est pour dire que c'est possible, que d'y croire finit par faire en sorte que ça se peut. Puis en fait, sans rien révéler, parce qu'on s'en va ailleurs, mais d'une manière, je donne puis je reprends, je donne d'une main puis je reprends de l'autre dans le livre. Mais ça existe quand même. Je crois aussi que ça existe. Puis qu'on est chanceux dans une vie d'homme de trouver un amour, c'est une fois ou deux fois si on est vraiment extrêmement chanceux.
Mais ne découvre-t-il pas aussi, sans révéler une fois encore les leviers de votre fin de roman, que chaque séparation, chacune de ces fuites antérieures ont été en quelque sorte une petite mort pour ces amoureuses?
Oui, à chaque fois. À chaque fois, il y a un deuil à faire. Il part. Puis, vous savez, puis le personnage qui a été créé, c'est un personnage auquel les femmes du roman s'attachent beaucoup. Il y a quelque chose de mystérieux et de sauvage chez cet homme-là qui fait en sorte que les femmes souhaitent et veulent l'aimer aussi. Puis que... Alors, il finit par ne pas rester non plus dans ses relations jusqu'au jour où il se fait jouer un tour par le destin. Mais oui, des deuils comme on en vit un peu partout, dans plein d'amour, même dans des relations amoureuses qui durent, on vit des deuils à chaque jour, régulièrement.
Sur une plage d'Anticosti, l'homme sculpte des bouts de bois échoués, poncés par l'océan. Il fabrique des objets de beauté. Alors, on pense évidemment à votre travail artistique, par ailleurs. Dans la démarche entre l'écriture et la peinture, qu'est-ce qui diffère, selon vous? Clara, qui est l'une des femmes dont je parlais tout à l'heure, dira, je cite, « Les artistes changent le plomb en or » et ont pour mission d'émerveiller ou de s'émerveiller. Et moi, dit-elle, je creuse pour trouver le plomb. Est-ce qu'écrire, c'est creusé pour trouver le plomb?
Oui, en fait, je l'ai fait dire, je ne sais pas si je suis entièrement d'accord avec ça, mais je l'ai fait dire à Clara. C'est ce qui est beau aussi dans l'écriture. D'arriver à mettre une distance entre des personnages puis de leur faire dire des choses, même si on ne les croit pas. Mais oui, dans ce cas-ci, il y a une rime évidente avec ce que je fais et avec ce que je dis et vis aussi. Ce sont deux disciplines de création et artistique que j'admire et pour qui j'ai un immense respect. Puis il y a quelque chose, effectivement, de sublime entre aller creuser, aller fouiller et aller donner de la matière aux gens qui en fait, font leur or eux-mêmes. Vous lisez, vous tenez le livre dans cette intimité-là. C'est à vous de faire relever vos pensées ou de trouver les pépites dans ces, ou de raffiner assez ce qui vous est offert, pour, je l'espère, parce que mettre un peu de beauté ou un peu de lumière quelque part. Oui, il y a ça, mais vous savez, Eric, dans tous les gestes de créateur, il y a cette idée-là merveilleuse de changer le plomb en or ou d'aider un peu le projet humain avec des idées ou avec des sentiments de beauté. Et puis, ben, si les tableaux, la pratique plastique, artistique, elle relève davantage d'une forme d'instinct, de l'animalité, parce que les choses se passent autrement que dans un roman ou des mots où on doit construire une trame narrative, les choses se déroulent dans le temps, faire découvrir. Il en demeure pas moins que c'est à peu près les mêmes visées.
Parlons de pépites, pour finir, vous citez beaucoup de livres ici. J'ai noté Le Torrent d'Anne Hébert, L'Outre-Vie de Marie Huguet, Le Monde selon Garpe de John Irving, L'Œuvre au Noir de Marguerite Yourcenar, La Peste de Camus, Gros Câlin de Romain Gary et Émile Ajar. Y a-t-il des livres qui, plus que d'autres, vous ont inspiré pour prendre la plume?
Oui, enfin, vous savez, Romain Gary, je l'ai lu très jeune. À une époque où je me croyais incapable de finir un livre. Puis j'ai été très surpris, entre autres, par le fait de pouvoir me reconnaître dans une écriture. Puis c'était quelqu'un d'outre-mer, puis d'ailleurs aussi. Mais il y avait quelque chose où, entre les lignes, où mon mari était allé très creux dans le message humain que j'en comprenais. Puis, c'est à la base, il y a ça, mais c'est tous les livres que vous venez de nommer, ce sont des livres marquants dans ma vie. J'ai relu Le Torrent cet été, encore, un truc qui m'est tombé dessus, j'ai retrouvé le livre, puis je l'ai relu, vous savez, c'est 67 pages, c'est pas grand-chose, mais c'est bouleversant. C'est bouleversant de beauté et d'horreur à la fois, et c'est La Route de Cormac McCarthy. Il y a des livres, que je fais. Parfois, ces livres, quand j'y termine, je les lance au bout de mes bras, puis je deviens jaloux. Comment ils ont réussi à s'approcher autant des choses que je souhaite dire, comme humain ou comme artiste, je trouve ça merveilleux. Puis après, je me réconcilie, je les admire, puis j'essaie d'aller écrire ou faire une petite part pour participer au projet.
Ouais, ben il y a de grandes chances que vous nous rendiez jaloux avec ce livre-là. En tout cas, à vous, chères lectrices et lecteurs, de répondre à l'appel de la chasse sur l'île d'Anticosti, puis sur l'île au naufrage, à travers le portrait d'un homme fidèle à ses chiens, fidèle à sa nature profonde et sauvage, animale, un personnage qui se confronte aux forces obscures qui le hantent, de vie et de mort, avec comme horizon la quête d'un amour impossible, Un homme et ses chiens, par Marc Séguin, paru en 2022 aux éditions Le Méac. Merci d'avoir répondu à notre invitation à Mission Encre Noire, Marc. Je regarde mon ordinateur bêtement. Je clique sur une icône, ouvrant ainsi pour la troisième fois le document sans titre qui traîne sans raison entre les mots « corbeille » et « bureau ». Derrière les pictogrammes, qui forment presque un rectangle, j'ai mis une image en fond d'écran. On voit les 50 ans de Bukowski finement ficelés sur cette grosse face d'alcoolique que supportent des épaules qui ne s'affaissent pas, qui soutiennent son corps intoxiqué afin que son regard puisse, lui, soutenir celui des autres. Les épaules se sont redressées un après-midi de novembre. Il est allé chier et pour la seule et unique fois de sa vie, il a osé regarder son reflet dans le miroir, même si sa laideur était à l'image de son angoisse. il a compris qu'il était voûté. Et c'est en exhibant son ventre mou qu'il a pu se rendre assez dégueulasse aux yeux des écorchés pour les baiser avec cynisme dans les orifices qui s'ouvrent en même temps que l'esprit chez les romantiques dites radicales, communément appelées crise de folle dans le jargon des tout croches. Sur la photo, on distingue son réfrigérateur en background et on comprend alors à quel point son appartement est trash. Une citation souligne le tronc de Charles sur l'image en noir et blanc. « Find what you love and let it kill you ». Ceci est un extrait de « L'angoisse d'être à jeun » par Sarah Robinson, paru en 2022 aux éditions Triptyque. Esmeralda est constamment défoncée. Née de l'autre côté de la rivière des Outaouais, elle vit dans une maison du vieux Hull avec sa grand-mère et sa tante handicapées. À force de consommer trop d'amphétamines, l'autrice s'est transformée en personnage de Notre-Dame de Paris. Souffrant d'un syndrome de la personnalité limite, cette Esmeralda 2.0 décide d'écrire un roman pour avoir l'impression d'exister. Mais quoi écrire ? Elle tape fort sur le clavier, Bukowski en fond d'écran, « Find what you love and let it kill you ». Esmeralda s'attarde à décrire sa cour des miracles, ses angoisses d'existence, ses nuits blanches, ses histoires d'amour fuckées et l'héritage douloureux d'une adolescence vécue aux côtés d'une mère intrusive. C'est avec un humour dévastateur que la narratrice nous conte sa passion amoureuse, sa sens unique pour Phébus, un barman de 16 ans son aîné, ses relations quasi incestueuses avec son meilleur ami Quasimodo et comment elle tente de faire chavirer le cœur chaste de Frollo. Si sa démarche peut paraître puérile et pleine de poésie de cul, c'est dans le texte, attachez vos tuques, le roman se lit ligoté à la verve magistrale de sa narratrice, un verre de fort dans une main, un pétard à mèche allumé dans l'autre. Ça s'écoute fort, bien calé dans son fauteuil, avec « Tu m'aimes tu » et « Boum boum » de Richard Desjardins qui résonne quelque part dans la pièce. J'accueille ce soir à Mission Encre Noire, Sarah Robinson. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Sarah Robinson, vous êtes née en 1990 à Gatineau. Vous êtes détentrice d'une maîtrise en études littéraires. L'angoisse d'être à jeun est votre premier roman. Alors, vu le titre, est-ce que ce roman s'est écrit à jeun ou plus sérieusement, reflète-t-il plusieurs époques de vie et plusieurs époques d'écriture?
En fait, vous l'avez bien mentionné, ce roman reflète plusieurs époques d'écriture, puis par époque d'écriture, ici, je pourrais dire, c'est presque des stades. Donc, l'ébauche de ce roman a été écrite par une jeune femme de 22 ans, défoncée, comme c'est mentionné dans le livre. Mais ensuite, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Hein. Le roman a été complété par une femme enceinte, qui boit de la camomille. Et l'ensemble de l'œuvre a été travaillé ensuite par moi, des années plus tard, avec pas mal plus d'outils, je dirais, théoriques au niveau littéraire. Et une équipe merveilleuse aussi qui m'a aidé à travailler la structure et la linéarité puis la temporalité du roman, je dirais. Donc, non, ça n'a pas été écrit totalement d'un trait par une personne. Ça peut être écrit par Esmeralda, je vais le dire comme ça.
Bukowski, Luc Plamondon et Richard Cochient, mon oncle Serge et Alexandre Deschênes, des défuntes éditions L'Écrou, ouvrent ce livre en exergue. En tout cas, toutes ces citations résument assez bien le ton du roman. Bukowski, Hull, Drama Queen, La Cour des Miracles, le gâtisme des péquistes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui relie un peu toutes ces citations du début du livre?
C'est vraiment cool que tu te sois attardé à ça parce que j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup d'efforts à créer un schéma au début avec les citations. Donc, je crois que... OK, donc Bukowski, je ne pouvais pas l'ignorer parce que ça a été la personne, l'auteur qui m'a peut-être inspiré à écrire quelque chose. Je me disais, bon, si ce gars-là peut être publié puis incarné... la sensualité, du désir, incarner des choses qui, moi, personnellement, me poussent à écrire, puis être une merde totale, puis un échec social. Je me dis, bon, OK, Bukowski, donc « Find what you love and let it kill you »,« Don't try », puis toutes ces citations-là. Pour ce qui est de mon oncle Serge, je crois que l'espèce d'idéal de la séparation du Québec qui m'animait quand j'étais plus jeune a eu un impact sur mes lectures, hein, ce que j'ai lu, ce qui m'intéressait en tant que lectrice et aussi ben, sur ce que j'écrivais. Mais ben, c'est ça, c'est la déchéance de l'idéal indépendantiste québécois. Tu sais. Puis c'est quelque chose que j'assume aussi dans mon écriture. Donc, je ne suis plus péquiste et ça me fait beaucoup de peine, mais blablabla. Bla, bla. Donc, et leur objectif, pourtant, c'est ça. Donc, c'est important, je pense, sur le plan historique de mon roman, c'est important de considérer ça, cette espèce de déchéance-là. Puis, Alexandre Deschênes, c'est... ben, Colin Devine, il y a quelqu'un d'autre que moi qui a compris à quel point le vieux était merveilleux et digne d'intérêt sur le plan littéraire. Donc, j'ai vu ça, vieux drama queen. En fait, j'étais à côté sur un bar le 4 jeudi, puis j'ai vu ça écrit à la craie sur le mur du bar. Puis mon directeur littéraire m'avait déjà conseillé de m'intéresser à Alexandre Deschênes, que je connaissais aussi un peu. J'avais lu En chaloupe dans Crushstone. Puis quand j'ai vu que la citation était là sur le mur, j'ai fait comme « OK, non, il faut absolument que j'intègre ça à mon livre. » Donc, je l'ai mis en exergue. Voilà.
Alors, Esmeralda, c'est le nom de votre narratrice, voire Laguenon, c'est écrit dans le texte. Ouais. Vous pourriez décrire Esmeralda? Vous la décrivez comme l'antithèse de la truie, le double de Carrie Bradshaw, de Sex and the City, pseudo-féministe en manque d'attention. Ouais. C'est qui Esmeralda?
Esmeralda, c'est une image qui a été créée d'abord par Victor Hugo, Dieu est son âme, que ce grand homme qui a créé un personnage qui est en fait un objet de désir. Bon, un objet de désir du 19e siècle. Un personnage féminin de roman français romantique du 19e, donc on va pas trop lui en demander, hein, pour Hugo. C'est pas un personnage qui a beaucoup de dialogue, beaucoup de voix. Or, c'est un canevas presque vierge sur lequel on peut travailler, parce que Esmeralda fait partie de la culture pop. Donc, Esmeralda est un peu partout, dans Disney, dans... tout, on sait très bien, c'est un peu... Je veux pas la comparer à Lolita, parce que là, on veut pas rentrer là-dedans, mais quand on dit une Esmeralda, on peut dire une Lolita, on peut dire une... on prend un nom de personnage féminin, puis on peut broder autour de ça. Puis, j'étais un peu tannée qu'Esmeralda, j'ai pas de voix, donc je me suis dit, OK, c'est une femme marginale, c'est une femme qui est un peu incomprise, hein, elle est pauvre et elle danse dans la rue, c'est une femme migrante, c'est une femme qui ne correspond pas aux standards de ce que la société considère comme une réussite, donc j'ai comme pris cette image-là, qui faisait partie aussi d'un mythe, un mythe collectif qui personnellement me fascine. Et j'ai brodé autour de ça. Donc, j'ai traché Esmeralda pour écrire ce roman-là. Mais je pense que les Esmeraldas sont partout. Donc, c'est ça ma théorie. Mm-hmm. Les Esmeraldas n'ont pas de genre. Comme tu peux être une Esmeralda si tu veux. Mm-hmm. Une Esmeralda, c'est quelqu'un qui comprend pas trop comment intégrer l'esthétique qui correspond à ce que les gens veulent. Puis qui existe un peu malgré elle. Mais ouais, qui incarne une certaine beauté. À sa manière, je pense.
Si on peut revenir un petit peu en arrière, parce que vous parliez de Hull, vous écrivez « La cause franco-ontarienne me touche », et vous précisez rapidement, parce que votre personnage évolue dans le temps, « Il me fallait un diplôme de l'UQAM, l'université du peuple, là où les filles sont belles avec du poil, là où on parle ». Alors moi, je me suis demandé, avez-vous un rapport amour-haine envers votre ville natale ?
Oui. J'ai beaucoup de plaisir à comparer Hull Gatineau à un ex, hein? Un ex que tu vas toujours un peu aimer, comme c'est comme t'es plus amoureux ou amoureuse de cette personne-là, mais quand la personne entre dans la pièce, t'es comme il y a un sentiment, hein, qui se crée. Donc oui, par rapport à l'Outaouais. Mais ça change de plus en plus. Puis il y a vraiment un engouement qui se crée. Un intérêt, une effervescence pour la culture puis l'histoire dans le vieux. Puis je suis tellement contente de ça. Il y a vraiment une ouverture qui se fait. Mais là où j'ai grandi, dans l'Outaouais des années 90-2000, écoute, c'est pas... me rappelle que mon patron m'avait déjà dit que je pouvais, que je devais me raser les aisselles, tu sais, pour travailler.
Ah oui.
C'est drôle, on est comme en 2013, là. Il me dit, ouais, non, faut que tu rases tes aisselles. Je dis, moi, mais Carl, lui, il est en camisole, puis il y en a du poil. Je savais pas trop quoi dire parce que son excuse, c'était comme pas de poil dans les lattés, là. C'est absolument ridicule. Et c'est, on est ailleurs maintenant. Donc, par rapport à la pilosité puis toutes ces choses-là, puis c'est drôle de dire ça dans une entrevue, mais oui, en effet, c'est une culture de banlieue, là, tu sais. On est à Gatineau. Ce qui est cool, surtout dans les années 2010, c'est les douches, puis avoir des autos, puis tout ça. Donc, j'imagine que moi, à cette époque-là, avec mon cercle d'amis, puis dans la temporalité dans laquelle on s'inscrivait, ouais, avoir du poil, c'est...
En tout cas, ce qui séduit, c'est un peu comme votre voix à la radio. Bah, dans le roman, c'est votre ton, un ton qui est à la fois détaché, parfois cynique. C'est un style qui claque. En tout cas, on vous lit un peu la bave aux lèvres avec l'envie de mordre, parce que c'est quand même très drôle. Pourquoi avoir opté pour ce ton-là, ce regard cinglant sur une époque de votre vie, vos 20 ans, sans doute, cette période qui vous a construit, quel sentiment en gardez-vous avec le recul et après avoir écrit ce livre?
Mais quel autre sentiment faudrait-il adopter par rapport à ces 20 ans? Il y a un passage dans mon livre où je parle des 20 ans d'Aznavour et de Piaf, de tous les... En fait, la thématique des 20 ans dans la chanson française en général, une époque, un stade de la vie des gens en général qui est très, très idéalisé. Pourquoi j'ai eu ce regard cynique-là? Simplement pour le banaliser, quoi. Parce que c'est pas tout le monde qui a ce parcours-là. Je suis d'accord. Il y a certaines personnes qui peuvent se sentir très, très interpellées par l'univers qui est romancé et littéralisé, si je peux utiliser ce mot-là, dans mon roman. Puis il y a d'autres personnes qui peuvent ne pas s'y reconnaître du tout. Hein. Alors, c'est pas ça du tout, leurs 20 ans, puis c'est pas grave. Donc, j'ai opté peut-être plus pour la généralisation de ça, c'est que ben, la bohème puis les 20 ans, il faut les regarder avec cynisme parce qu'on va tous vieillir. Donc, je pense que les blessures, puis les excès, puis tout ça, il faut absolument les prendre, puis il faut les emballer dans du papier de soie, puis leur donner un bisou, puis les mettre de côté, puis passer à autre chose. Mm-hmm. Parce que sinon, ça peut rester longtemps en dedans de soi, puis devenir vraiment comme une grosse cicatrice, puis avoir un impact. Donc, il faut embrasser ces années-là, ces excès-là, puis c'est correct de tomber. Il faut se péter la gueule pour se relever, là. C'est vraiment, c'est peut-être un petit peu quétaine, puis kitsch, ce que je dis, mais c'est important, je pense.
En parallèle de la lecture de votre roman, je lisais aussi Le Virginie des Pentes de Cher Connard. Et il y a une citation qui m'a allumé, puisque j'étais aussi dans l'angoisse d'être à jeun. Il y a une citation, c'est « Quand tu arrêtes de boire, tu fais le deuil de la meilleure version de toi ». Est-ce que écrire permet ou vous a permis aussi ce deuil?
C'est drôle que tu dises ça parce que c'est ça. Donc, j'avais une grosse, grosse bedaine de femme enceinte, là, quand même, à 25, 26 ans. J'essayais d'apprendre la guitare, puis j'étais devant mon ordinateur, puis je voulais terminer l'angoisse d'être à jeun. Puis je disais, bon, l'angoisse d'être à jeun, mais là, maintenant, je la vis, tu sais, parce que je suis enceinte, je peux pas consommer, puis c'est bien. J'ai eu la détox la plus efficace de ma vie. Qu'est-ce que j'écris maintenant que j'ai plus cette énergie-là, cette espèce de fierté d'être décadente? Puis, c'est quoi? Effectivement, j'ai été obligée d'avoir recours à des parties de moi qui selon moi, n'étaient pas dignes d'être sollicitées, mais qui, en fait, étaient vraiment legit. Donc, ouais, j'ai appris à réviser mes phrases, à me dire, mais non, ce paragraphe-là, il est beaucoup trop long, à avoir plus de rationalité, puis aussi à ouvrir mon... avoir accès à des souvenirs, à des connaissances qui sont pas accessibles quand tu écris sous l'influence. Puis je le dis en toute honnêteté, là, faire de l'art, c'est pas la même chose quand t'es sous influence ou quand t'es à jeun. Les deux sont tout à fait valides, tu sais. C'est juste pas la même chose, c'est pas le même résultat.
Alors, vous posez vos personnages, vous voulez les faire coller au roman de Victor Hugo. Alors, il y a Frollo, Mr. Big, Quasimodo, oui, une version soviétique d'Albert Camus, et Phébus, le Clickedick. Ce ne sont que des hommes, ce sont trois hommes qui incarnent une sorte de sainte trinité, comme le bon, le prude et, on va dire, le méchant, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'Esmeralda recherche à travers le portrait de ces trois hommes ?
Elle-même. Donc, Esmeralda se cherche elle-même dans les trois pointes de ce triangle. Puis j'en parle un peu, là, d'espèce de trinité. Là. Donc, c'est un concept que j'avais envie d'explorer avec mon livre. On impose ça aussi pendant très longtemps, je dirais, aux femmes. Donc, c'est l'espèce de... C'est soit la Vierge, soit la Mère ou la Putain. Et là, ici, encore, effectivement, vous l'avez tué. l'avez très bien mis en mots. Donc, le bon, le prude et le méchant. Esmeralda, tout ce qu'elle veut, c'est s'aimer elle-même. Donc, c'est une jeune femme qui veut être romantique et stable et qui n'a pas les outils. Donc, ce qu'elle peut, un peu comme la Esmeralda de Victor Hugo, qui ne sait pas trop non plus ce qu'elle veut. Tout ce qu'Esmeralda veut, en fait, c'est Phébus. Donc, Phébus, c'est quoi? Phébus, c'est le méchant. Donc, ce qu'elle veut, c'est être aimée par l'impossible. Puis être aimée par l'impossible, c'est impossible. Donc, on y va en raccourci. Elle veut l'impossible. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle veut aussi... l'amour. Donc, l'amour, c'est pas accessible parce que quand on s'aime pas soi-même, on peut pas tant aimer. On peut, mais c'est très hypothétique. C'est assez hybride. Donc, avec Quasimodo, elle a l'amitié, mais elle sexualise ses rapports de façon... assez systématique, donc l'ami, mais elle veut pas le perdre, donc elle sexualise la relation et elle la perd, et t'as une espèce de désir d'être bien, hein, le désir d'être correct et de correspondre aux standards et d'être t'as sa mère qui est très très exigeante et stricte, donc en étant aimée de Frollo, elle espère correspondre à un dogme, donc elle veut être aimée de l'Église, si je peux le dire comme ça. Là. Elle veut correspondre à ce qui est correct, à ce qui est bien. Puis elle dit, si un homme bien s'octroie le privilège de m'aimer, ben, je ne dois pas être si pire que ça. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est ça le rapport aux trois pointes du triangle.
Mmh. Alors, vous citez également Frédéric Becbédé, un notoire mange-marde au talent certain, qui dit « Le bonheur n'existe pas, l'amour est impossible et rien n'est grave ». Cela dit, Esmeralda confirme presque ce point de vue plus tard dans le texte, je cite « J'exige que l'amour arrive tout de suite sans pourtant être prête à le vivre, à l'assumer. Je veux qu'on m'aime et qu'on me désire, mais le désir a une chance sur deux de me dégoûter lorsqu'il devient réciproque. » C'est quoi l'image du bonheur pour Esmeralda ? On peut dire que c'est pas forcément Becbédé, mais ce n'est peut-être pas non plus des flots avec Phébus en banlieue d'Ottawa.
Non. Oh, désolée. C'est juste que les personnages qui ont inspiré... les personnes réelles qui ont inspiré les personnages existent. Puis là, tu me dis les flots avec Phébus en banlieue d'Ottawa, puis je... comme je gratte ma plaque des témoins en ce moment-là. Okay. Donc, oui. Non, c'est ça. Je pense que Frédéric Becbédé incarne aussi cette espèce de recherche compulsive de l'idéal et je trouve ça romantique, en fait, moi, Frédéric Becbédé. Je trouve qu'à sa manière, c'est très romantique. En fait, c'est ça. Mon livre, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le comprendre ou être d'accord avec moi, mais j'ai vraiment essayé d'incarner le romantisme du 19e siècle. L'espèce de priorisation de la passion au-delà de la rationalité. Donc, écoute, les relations sentimentales sont décevantes. Être amoureux, c'est plaisant. Le bonheur n'arrivera pas. C'est pas grave. On recommence le processus. Donc, c'est une espèce de mantra de personne brisée qui, selon moi, fonctionne très bien. J'allais dire dans la vingtaine, mais c'est pas vrai. Tu peux te répéter ça toute ta vie, puis ça peut fonctionner, honnêtement. C'est juste que le personnage de mon roman se dit ça pour ne pas être obligé d'arrêter d'aimer Phébus. Donc, je crois qu'Esmeralda, elle dit ça pour pas buter contre le mur de la réalité qui est que ben, Phébus ne l'aime pas, puis le bonheur est impossible, rien n'est grave, on recommence. T'sais. On peut continuer de l'aimer, Phébus, c'est pas grave.
Ouais, mais, ouais, mais malgré tout, je me suis demandé, justement, on parle de Phébus là, mais on pourrait aussi évoquer Frollo, l'homme vierge, le nerd, l'amateur de Théophile Gautier et de Kierkegaard. Mais finalement, Frollo ne représente-t-il pas le côté pile de Phébus? Est-ce que Phébus et Frollo ne sont pas les mêmes représentants d'une masculinité toxique, le pile et le face d'une utopie dominatrice dont souffre effectivement Esmeralda? L'Esmeralda l'exclut justement de ce monde-là.
Oui, parce qu'on compare encore une fois, puis c'est ça qui est intéressant là, d'un point de vue littéraire, de prendre ce roman-là, puis de le comparer au chef-d'œuvre d'Hugo. C'est drôle parce que là, j'ai reçu en cadeau les facsimilés des manuscrits de Victor Hugo, je le regarde présentement. Là, donc, ce chef-d'œuvre de 684 pages, tu sais, versus mon roman à moi, qui est un délire dans le vieux hall. Mais quand même, j'ai un peu reproduit ça. Donc, effectivement, t'as Phébus et t'as Frollo qui, tous les deux, veulent Esmeralda d'une façon qui n'est pas compatible avec son univers à elle. Donc, elle n'est pas... L'univers de Phébus, dans mon roman, à moi, il correspond à son univers à elle, mais il ne laisse pas intégrer le sien. Donc, elle se sent quand même étrangère à ça. Puis Frollo, il est supérieur à elle. Donc, au niveau de l'éducation, au niveau des mœurs, au niveau sur plusieurs plans, en fait. Donc, elle est un peu dominée par ces deux hommes-là, effectivement. Et elle tente de séduire les deux. Phébus, c'est celui avec qui elle aimerait être. Et Frollo, c'est celui auquel elle voudrait, en guillemets, ici, gros guillemets, mais appartenir. Mais c'est pas tant à Frollo qu'elle voudrait appartenir, mais plutôt à son univers. Elle voudrait être capable de correspondre à cette espèce de, j'allais dire, stoïcisme, mais c'est pas ça, cette espèce de jansénisme. Cette espèce de, elle voudrait être capable, comme lui, de dormir dans des draps très minces, de pas consommer d'alcool ni de drogue et de croire en Dieu et de lire Plutarque. Donc, elle est attirée par ça, mais elle correspond pas à ça. Donc, forcément, c'est négatif sur elle. Même chose pour Phébus, je crois, parce qu'il y aura jamais de réciprocité.
Le portrait que vous faites d'Esmeralda est quand même drôlissime, même si parfois on sourit jaune, je dirais. Mais il ne dissimule pas en réalité le parcours ordinaire, comme un parcours du combattant qu'une jeune femme est obligée de livrer dans une société hétéro-normative. Néanmoins, en miroir, vous tirez également le portrait de la mère d'Esmeralda. Cette mère d'une autre génération qui, elle, a accepté une image du bonheur, qui a accepté, à travers des renoncements, des compromis, a accepté, en fait, les choix qu'on lui proposait pour adhérer à cette société.
Absolument. C'est la partie qui fait mal.
Ah.
OK. Oui. Je pense qu'il y a eu un effort de ma part en tant qu'autrice à ce niveau-là parce que c'était une partie de l'œuvre qui nécessitait beaucoup de travail sur le plan théorique, sur le plan technique et aussi sur le plan humain parce que quand on fait de l'autofiction, ben, y a des gens qui existent hein, puis qui peuvent lire ça. Donc forcément, j'ai dû rendre un portrait qui était peut-être difficile à lire pour les gens qui sont impliqués, mais qui était quand même représentatif de ce que je voulais exprimer dans les chapitres où je parle de la mère, parce que les relations mère-fille à l'époque, à notre époque, sont difficiles. Puis il y a effectivement une scission, une fracture entre la génération de la mère d'Esmeralda et d'Esmeralda. Donc, tu as l'idéal amoureux monogame du mariage, tu as l'accès à l'argent, le rapport à l'argent qui est vraiment différent aussi, tu as le côté marie-toi, marie-toi avec quelqu'un du secondaire là, que tu connais depuis quelques années, avec ton amour de jeunesse, fonder une famille et acheter une maison, et voilà, et arrange-toi avec ça et gère ensuite les conséquences de ce choix-là, versus le libertinage, la consommation de drogue, le bon, puis encore une fois, c'est ça. Donc c'est les rapports mère-fille qui sont vraiment difficiles à gérer, puis qui sont profonds. Mais ce que je voulais montrer avec ça, c'était la possibilité pour les femmes qui ont des problèmes avec leur mère d'accepter ça, même si c'est difficile, puis même si c'est douloureux, et que ça peut changer, et que non, nos mères sont pas parfaites, puis non, peut-être que nos mères nous ont fait mal, mais on est toutes des... En tant que maman, là, on n'est pas parfaites, OK? Mm-hmm. Il y a des choses qui peuvent se passer, puis au final, l'amour reste là. Donc l'amour, même s'il fait mal, c'est de l'amour quand même, puis il mérite d'être perçu comme tel.
Est-ce que la Cour des miracles peut représenter une sorte d'îlot de résistance justement à toute cette conformité plate qui entoure votre personnage dans le livre, malgré qu'il faille en payer le prix fort? Est-ce que malgré justement qu'il y ait des excès, est-ce que la Cour des miracles peut être un refuge?
Mais oui, vraiment beaucoup. C'est une espèce de... C'est un bunker du beige. Un bunker contre le beige. C'est un bunker anti-beige, le vieux hall. Puis là, il y a Brigitte Construction qui arrête pas de faire chier. Désolée, c'est pas ça que je voulais dire en entrevue. Désolée. OK. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans le vieux hall qui tentent de saboter cette esthétique absolument magnifique dans laquelle je retourne ce soir, d'ailleurs. Et qui... Le vieux hall, c'est un restant de culture du petit Chicago et de la prohibition, de cette espèce de... C'est correct, l'itinérance existe dans le vieux hall, puis il y a des gens qui sont là pour l'aider, OK? Il y a des phénomènes sociaux qui se déroulent dans le vieux hall, puis c'est comme si le reste de l'Outaouais essayait de les cacher avec des bungalows qui sont toutes pareilles, puis des semi-détachés. Donc, je pense que cette région-là mérite aussi un intérêt sur le plan historique puis culturel, mais le vieux hall, c'est vraiment l'espèce de... c'est le centre de tout ça. Puis, c'est un endroit où c'est possible de se coucher tard, même si c'est mardi, ce qui n'est pas possible dans le reste de la ville. C'est sûr qu'il y a d'autres endroits de Gatineau qui résistent au métro, au boulot, dodo, mais je pense que le vieux hall mérite un intérêt.
Pour finir, le roman s'achève sur « J'ai plus envie d'en parler ». Gardez-vous pour autant oui. L'envie d'écrire?
Absolument. J'ai déjà des idées, là. Mais ça, c'est terminé. Donc, on va mettre un petit... on va mettre un point à l'autofiction et au jeu. On va se calmer un petit peu avec ça. Mais j'ai quand même... j'ai quelques idées, là, pour le futur. Donc, j'ai des petits projets, là. Je vais voir qu'est-ce que je choisis. Mais non, l'envie d'écrire... Depuis que j'ai 8 ans, j'écrivais des choses sur des dragons, puis des princesses. Puis les professeurs me disaient d'écrire une page, puis j'en écrivais 9. Les professeurs étaient perturbés. Même si je voulais arrêter d'écrire, je peux pas vraiment. Donc, j'écris pas en ce moment. Hein. J'ai un enfant, puis je travaille, puis je suis une maman, mais j'écris dans ma tête. Donc, ouais, ça va se passer, là.
Bon, en tout cas, j'ai hâte de lire Sarah Robinson qui écrit à propos des dragons. Ça peut donner quelque chose d'assez intéressant.
Ouais.
En tout cas, voilà, tout a commencé quand la Esmeralda s'est trop maquillée pour aller travailler. Sex and the City croise Notre-Dame de Paris dans ce premier roman explosif, insolite, où la plume passionnée et drôle de l'autrice fait feu de tout bois. L'angoisse d'être à jeun par Sarah Robinson, paru en 2022 aux éditions Triptyque. Merci Sarah pour votre visite à Mission Encre Noire. Voilà qui achève Mission Encre Noire cette semaine, le tome 36, le chapitre 397. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Marc Séguin pour nous présenter Un homme et ses chiens, paru en 2022 aux éditions Leméac, ainsi que Sarah Robinson pour nous présenter L'angoisse d'être à jeun, paru en 2022 aux éditions Triptyque. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là!
de feder, eu acho. Mas o negócio
tava bom, bicho. Só quando ele tava tão entupido.
Gostoso!
Greta Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.